Oui.
Oui, oui.
A parte il fatto che bisogna vedere quando scadono questi portodarmi, comunque...
Tra le strade saracene, mille chiese ed altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
Dis-moi. Par où dire?
Train to Buffalo, New York. 35,
it's all the way back
42. 42?
How do you go
there?
C'est
un art. Par où dire?
Itzembaboko, génocide.
Il n'y a qu'une chose que tu ne perdras jamais, c'est l'amour. Je n'ai rien compris. Mon petit frère nous a proposé de sortir de la ville de Kigali pour fuir. Nous nous sommes entassés dans son minibus pour sortir de la ville de Kigali, mais il était trop tard. On avait commencé déjà à assassiner. On a eu juste le temps de retourner à la maison. Et il m'a dit, il ne restait plus rien, Yolande, que d'attendre. J'ai dit « Attendre quoi, Népo ?» Il m'a dit la mort. Mon petit frère est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai vu que ses os sur une colline en 2000. Les os qui portaient les vêtements de mon frère de ce jour-là.
Mesdames, messieurs, Madame Bibibi, Monsieur Jacob, bonsoir. Outou, qu'est-ce que cela signifie? Et Tutsi, qu'est-ce que cela signifie? Je veux en savoir davantage, avez-vous réclamé, Monsieur Jacob, et probablement au terme de cet exposé, saurez-vous un peu plus sur cette question. Mais assurément, vous n'aurez pas obtenu une réponse simple, ni complète, et encore moins définitive.
C'est qu'un pauvre petit spectacle qui a essayé de son côté d'éveiller aussi la vigilance et par des moyens sensibles, aussi bien qu'argumenté, puisque après que Madame Bibibi ait réussi à convaincre Monsieur Jacob de la guider, elle l'emmène à une conférence où, pendant près d'une heure, à peu près le même temps que la rescapée au début, il y a une conférence ex cathedra, on allume un peu les lumières dans la salle, et il y a une conférence au sens didactique le plus, bien qu'elle soit parfois un peu plaisante, les gens parce que moi, on commence parfois un peu à rire dans ce spectacle qui ne porte pas spécialement à ça, y compris des Rwandais, quand on l'a fait au Rwanda, qui riaient pendant la conférence et qui ont toujours applaudi cette conférence, qui donc est au sens strict didactique sur l'histoire du Rwanda, sur la question des trois ethnies, etc. Alors c'est, aujourd'hui, j'aurais des nuances à apporter à cette conférence. C'est moi qui me charge de ce rôle-là, ou Boko, sur le genre, sur les ethnies, sur l'histoire de la colonisation et sur ce qui s'est passé avec les deux républiques néocolonisées. Il n'y a jamais eu d'indépendance du Rwanda.
Jacques Delcuvellerie à propos de Rwanda 94, et c'est la deuxième partie d'une émission qui en compte deux.
À votre demande apparemment élémentaire, s'il est en effet une chose qui distingue les travaux actuels des chercheurs, ethnologues, historiens, des travaux de leurs prédécesseurs, c'est d'avoir reconnu votre question, la question Hutu, Tutsi, comme extrêmement complexe. Elle semblait jadis si simple.
Et tout, bien sûr, est sur Ovio, comme le spectacle dans son intégralité, Rwanda 94, un spectacle de la compagnie Group Off.
On l'étudie d'ailleurs avec d'autres outils et sur une beaucoup plus longue période. On remontait jadis uniquement par la tradition orale, au mieux et difficilement jusqu'au XVe siècle, au-delà tout semblait légendaire. La dernière synthèse sur le sujet, l'ouvrage de Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche au CNRS en France, « Histoire des peuples des Grands Lacs », porte sur 2000 ans d'histoire. Et c'est dire que ce n'est pas dans le cadre d'un spectacle dont vous êtes les aimables protagonistes que nous ferons davantage que quelques pas, quelques petits pas seulement, sur le chemin de cette grande notion, dont vous faites d'ailleurs un usage peut-être un peu excessif, Madame Bibibi. La vérité, la vérité. Quelques pas seulement.
Une chose très très importante que vous pointez dans cette conférence, c'est le caractère mythologique et l'exclusion des Tutsis dans le mythe qui va se créer. À deux reprises, ils viennent de bien loin, hein, les Tutsis, dans ce que l'on croit, et ils entrent dans le pays par effraction. Donc, à deux moments clés, ils sont perçus comme les autres, alors que l'histoire nous raconte autre chose.
L'histoire nous raconte en tout cas que ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas être si simple. Donc, l'idée est effectivement, cette région a été défrichée partiellement par endroits pour un peu cultiver les, entre guillemets, pygmées, les Batois, parce que qui a été au Rwanda voit que les Batois sont des pygmées très variables. Il y en a des vraiment très petits, il y en a des nettement plus grands, etc. Les Batois sont les plus anciens, les plus archaïques. C'est certainement en partie vrai, puisqu'ils vivent à part, ils sont investis de pouvoir, on les méprise en même temps, on leur donne des pouvoirs magiques particuliers. Ils étaient porteurs du roi, du Mwami, et ils avaient le droit de l'insulter, ce qu'on considérait comme des quasiment demi-singes. Donc il y a toutes sortes de choses bizarres. Les femmes Batois étaient censées avoir des pouvoirs de guérison, enfin bon, bref. Et ils servaient aussi de bourreaux, avec des tortures affreuses. C'est très composite. Et puis seraient venus les Hutus, pour faire du défrichage et de la culture. Et enfin, arrivent de très loin. Il y en a même qui ont dit depuis le Tibet, en passant par l'Égypte. Oui, oui, oui. À un moment donné, quand je racontais ça, je me montrais le cœur des morts derrière moi, tibétain. Ces intrus venus de loin, qui malheureusement se sont un peu dessinés dans cette position. Ils ont dit aussi, les Tutsis, qu'ils étaient tombés du ciel, des créatures venues du ciel. Mais tardivement donc, et avec l'attrait de la vache, et des bénéfices qu'elle permettait, avec un système compliqué qui s'appelle l'Ubuhake, et qui a évolué, permettait au tout d'avoir de l'usufruit d'une vache, mais pas de devenir propriétaire, et donc ça créait des devoirs. Est-ce que tout ça s'est passé comme ça? En tout cas pas de cette manière. Donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais ça ne peut pas être aussi récent d'abord, des arrivées tardives et vraiment complètement de l'étranger, parce qu'il y a toute une série de phénomènes qui contredisent ça, et notamment linguistique, puisque ça serait pour la première fois que des envahisseurs dominateurs adoptent la langue des dominés. Le Kinyarwanda, c'est une langue bantoue. C'est d'ailleurs la seule chose qui correspond réellement à l'étiquette bantou. Ce n'est pas ethnologique ou morphologique. C'est un groupe de langues, comme l'autre langue de la région. Et donc, ces gens venus de si loin auraient abandonné leur langue pour adopter celle sur laquelle ils dominaient. C'est quand même étrange. Ce n'est pas les Espagnols qui ont adopté le Quichua, enfin bon, ou le Guarani. Pour des historiens comme Jean-Pierre Chrétien et d'autres, la rencontre des différentes composantes de la société, entre guillemets, ethnique du Rwanda, c'est au moins avant Jésus-Christ. Et ces gens ne se désignent pas eux-mêmes comme Hutu, Tutsi, Hutois avant 15e, 16e siècle, où apparaissent ces catégories nommément.
Parler des Hutus, des Tutsis, c'est donc évoquer ce qu'il est convenu d'appeler au Rwanda les ethnies. On en distingue 3, les Tutsis, 13, 15%, 18% de la population. C'est difficile à dire, cette incertitude tient au fait que les recensements effectués jadis ont été faits dans des conditions politiques suspectes, intéressées. Et depuis 1994, on n'en fait plus. Il y a eu beaucoup de morts pendant le génocide, mais aussi un grand retour de centaines de milliers de Tutsis de la diaspora, disons qu'autour de 15% on est proche de la vérité, et c'est donc une importante minorité. Les Hutus, 80 à 85% de la population, la très grande majorité de la nation. Et puis un petit groupe, les Twas, qu'on assimile souvent à des pygmées. Une infime minorité, moins d'1%, mais ils ont joué dans le Rwanda ancien, un rôle symbolique, culturel, social, très important. Voilà, j'emploie pour parler d'eux, vous seriez contraints à employer pour parler d'eux, nous tous, un mot, prélevé du vocabulaire des sciences, appartenant maintenant au quotidien des médias, un mot occidental, ethnie. Commençons par nous demander si dans leur langue, le Kinyarwanda, il y avait un mot correspondant à cette notion. Le Kinyarwanda est une langue très riche, je dirais même pour un entendement européen presque sophistiqué, abondamment pourvu de concepts abstraits, et il n'y avait aucun mot qui corresponde à ethnie. Tout simplement parce que ce n'est pas du tout de cette manière que les Rwandais percevaient la différence entre les catégories identitaires. Et quand donc en 1931, l'administration belge a décidé de pourvoir chaque individu au Rwanda d'un livret d'identité portant en 3 langues, français, néerlandais, kinyarwanda, la mention ethnie. Dans cette dernière langue, la langue indigène, on n'a pas trouvé de mot. On a donc pris un autre mot qui signifiait autre chose et on lui a fait dire jusqu'à présent ethnie. Ce mot, c'est le mot clé de cette partie du spectacle que vous faites avancer, Ubuoko. Et Ubuoko a plusieurs sens, mais le plus courant, celui qui vient immédiatement à l'esprit pour un Rwandais à l'époque, c'est clan. Et le clan, on ne peut pas du tout dire, oui, on a pris clan parce que ça se recouvrait plus ou moins avec ethnie, en aucune manière. Il y a au Rwanda un peu moins d'une vingtaine de clans, 17, 18, ça dépend comment on compte les lignages particuliers. Cette petite vingtaine de clans, ils sont tous pluriethniques, il n'y a pas de clan monoethnique. Le clan royal, les Baniguenia, comprend des Hutus, des Tutsis, des Twas. Si donc jadis on avait demandé à un Rwandais « Quel est ton Ubuoko ?» Eh bien, il aurait répondu « Je suis un Musinga ou un Umuniguenia du clan des Singa, du clan des Niguenia. » Et pas « Je suis Hutu ou Tutsi. » Ça n'avait rien à voir. Peut-être, dans cette distorsion, dans ce détournement sémantique, y a-t-il le premier indice, mais très parlant, de la différence entre la réalité telle qu'elle pouvait être vécue entre Rwandais et le regard que nous avons porté sur elle. Cette obsession de l'ethnisme, je crois le mot n'est pas trop fort, cette obsession de l'ethnisme pour analyser et organiser la réalité rwandaise a prévalu des origines, fin du 19e siècle, jusqu'à nos jours.
Ukanza yo ya ya matongo na Refusé en disant que mes enfants étaient plus dangereux que les adultes. Il fallait donc les éliminer en priorité.
Peut-être que la solution finale,
je connaissais mon
Léon Yessera dans un meeting du MRND.
Je me connaissais aussi.
Peut-être que la fin totale des
Batoussis,
pour
arrêter à la base la reproduction des Batoussis.
Personnellement, je n'avais pas été
utilisé par terre.
Le peu que j'avais appris de l'histoire me poussait à croire que l'humanité avait tiré des leçons du 7 juillet.
Nous étions une famille de cultivateurs avec cet enfant. J'avais 18 ans et j'étais la douzaine.
Mon père, ma mère, mes frères et sœurs, notre nièce, la bonne, tout autour de moi, leur corps, j'ai une mélange de marbre de sang.
Il a pris mon corps et il est allé m'enterrer dans la bananeraie de notre maison. Je m'appelle Joseph. Depuis longtemps, j'habitais une petite pièce.
Là, nous avons trouvé un enfant qui avait une carte d'identité ou tout.
Le père est arrivé chez moi.
Il nous a emmené.
Ils ont ordonné à tout le monde de sortir. Ils ont ordonné aux femmes de rentrer dans la maison.
Quelqu'un
et là, ils les ont fusillés.
Que personne ne répondait.
Mélanie, quand ma sœur dormait, il est entré dans notre chambre et m'a dit que je devais accepter tout ce qu'il me ferait. Il avait un fusil et une grenade et il m'a violé.
D'un geste lent, il posa le canon froid d'un pistolet sur ma tempe. Un coup parti, ma tête éclata en deux, ma cervelle se chauffa en dehors. Ses choix sur ce qui restait des miens.
Je partage avec mon camarade
un monticule de porc sans vie.
Paul. L'accident.
On m'avait coupé les doigts, arraché un œil, donné des coups de machette sur le temps et sur tout le corps. Et j'ai passé trois jours étendu sur le sol,
qui avait une carte d'identité. Il était censé ne pas me faire de mal. Mélanie, quand ma sœur dormait, il est entré dans notre chambre. Il m'a dit que je devais accepter tout ce qu'il me ferait. Il avait un fusil.
Je suis morte.
Et une grenade.
Narapfouille.
Ils m'ont tué.
Je ne dors pas. Narapfouille.
Je ne suis pas
Narapfouille.
Je suis Baranyu.
Narapfouille.
Sindarubuka.
Baranyu. Sindarubuka.
Sindagira mahoro.
Je suis mort.
Je suis mort.
Je suis morte.
Sindagira mahoro.
Ils m'ont tué. Ils m'ont tué.
Je ne dors pas.
Je ne dors pas.
Je ne dors pas.
Je suis mort.
Je ne
dors pas.
Je ne suis pas en paix.
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 Je ne dors pas.
Je ne suis pas en paix.
Je ne suis pas en paix.
Ce qu'il y a, c'est que toutes sortes d'idées fausses, implantées par l'ethnologie belge, française et autres, par les missionnaires, etc., a été enseigné aux Rwandais par le blanc qui savait tant de choses, en leur disant « voilà ce que vous êtes ». Et non seulement « voilà ce que vous êtes », mais « voilà ce qui est votre mission dans l'existence ». Donc, les Tutsis commandaient, les Hutus travaillaient et être sages, et les Tois se faire voir le moins possible, etc., et faire les basses besognes. Et c'est dans le sang. C'est dans la composition même de votre identité, de votre vocation. Ce qui faisait très bien l'affaire des Tutsis, ils n'ont jamais fort contesté ça, et qu'ils étaient supérieurs, évidemment. Et ça a complètement déstabilisé le pays, les relations avec l'étranger, les coutumes, enfin tout. Puisque c'était un État à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y avait bien un pouvoir royal central, mais les règles étaient complètement différentes au centre du pays, aux frontières, selon les collines, les régions. L'identité était différente, les pratiques différentes, il y avait les chefs ou tout, enfin bref. Les Belges, comme vous savez, ont tout bouleversé. Et ont fait le choix des Tutsis à un moment donné pour être l'élite intermédiaire, ce qui est une position où on peut évidemment facilement abuser de son pouvoir, surtout quand, pour le colonisateur, le bon Rwandais est celui, le chef, est celui qui n'hésite pas à employer la manière forte.
Jusqu'au moment où l'alliance va se renverser.
Jusqu'au moment où, au moment des années 50, 58, 59, il y a un vent d'indépendance qui souffle sur l'Afrique et que la petite élite Tutsi, c'est même pas tous les Tutsis, parle d'indépendance, veut l'indépendance, et que le colonisateur estime l'Église, l'armée, le colonel guillogiste, et l'État estiment qu'il ne faut pas parler d'indépendance avant d'avoir fait la révolution. Donc, ces trois emblèmes du pouvoir au sens le plus conservateur du terme veulent d'abord la révolution. Brusquement, tout le monde trouve que les Hutus ont un sort très misérable, les Tutsis sont arrogants et insupportables, et qu'il faut d'abord faire une révolution sociale, et ils vont la conduire sous la surveillance de l'armée. Donc on fait revenir le colonel guillogiste d'Afrique du Sud, un pays qu'il adorait, un pays d'apartheid, où il pensait passer sa retraite, et il revient, et il combine avec le gouverneur Awa ce qu'ils ont appelé, dans leur mémoire, une révolution sous tutelle. Et cette révolution sous tutelle est très bien vue en Europe. À droite, ça préserve tous les intérêts de la colonie. À gauche, à extrême gauche, chrétien ou socialiste, parce que ça, cette insurrection de 59 sous tutelle est vue comme une jacquerie qui va conduire à l'équivalent de la Révolution française, à un État démocratique, et qui se fait donc contre la noblesse. Et on oublie complètement qu'il y a une différence majeure, c'est que cette révolte n'est pas conduite contre un roi ou une élite sur le plan social seulement. L'ennemi, c'est racial, c'est dans le sang, c'est les Tutsis. Ce n'est pas les 11 000 Tutsis qui sont un peu en vue, c'est tous les Tutsis. Et c'est dans le sang, puisque c'est ethniquement une vocation pour eux de dominer et de commander. Et donc, un enfant Tutsi est un danger en lui-même.
Cette version des faits, qui a, peut-être l'aurez-vous remarqué, le mérite commode, si j'ose dire, de nous exempter, nous, de toute responsabilité, les Occidentaux, c'est une affaire purement rwandaise, intra-rwandaise. Cette version des faits est sinon absolument fausse. Je dirais profondément vicieuse, point par point, tous les points. N'en retenons, si vous voulez bien, pour commencer, que deux, parce qu'ils sont directement articulés à votre question. Les Hutus et les Tutsis en tant qu'ethnie, et la haine séculaire entre eux. Peut-être surprendra-t-il quelques personnes ici, ce soir, d'apprendre qu'il n'y a aujourd'hui aucun ethnologue vivant qui accepte de distinguer entre les Hutus et les Tutsis des ethnies différentes. Ils ne rassemblent aucun des grands critères qui sont généralement convoqués pour distinguer ainsi des groupes de population dans le monde. Rappelons-nous quelques-uns de ces grands critères. Il y a d'abord le territoire. Généralement, à une ethnie déterminée correspond une appropriation géographique. Au Rwanda, on trouve des Hutus, des Tutsis, des Twa. Sur toute l'étendue du territoire national, je dirais, sur chaque colline. Serait-il alors divisé par ce que les ethnologues appellent un puissant marqueur d'identité, parce qu'il conditionne toute la culture, comme par exemple ici en Belgique, entre les Wallons et les Flamands, serait-il divisé par la langue? Au Rwanda, et c'est un cas très rare en Afrique, tout le monde, absolument tout le monde sans exception, parle la même langue, le même Kinyarwanda, et sans différence. À nouveau, singularité rare en Afrique, avant l'arrivée des Blancs, tout le monde, sans exception à nouveau, adorait le même Dieu, un Dieu unique, immane. Qu'après les dernières décennies de discrimination, de honte, de violence, avec une société focalisée sur la distinction raciale, les Rwandais ont peut-être développé une sursensibilité qui leur fait relever des indices qui nous échappent. On y était d'ailleurs entraînés. Vous vous souvenez qu'ils vous ont dit que dès l'école primaire, premier jour, les Tutsis devaient en quelque sorte se dénoncer, les enfants devaient dire se dénoncer comme Tutsis. Et ils servaient de cobaye, si j'ose dire, ces malheureux enfants, pour permettre aux autres d'identifier ce qu'est un Tutsi, en distinguant les traits, en faisant toucher les cheveux, tu vois, ils n'ont pas la même texture que les tiens, etc. Malgré tout cela, la meilleure preuve que pour les Rwandais également la tâche n'est pas facile, c'est le génocide. Ce sont tous ces Tutsis qui ont échappé aux barrières des miliciens interarmées parce qu'ils n'avaient pas le type caractéristique et qu'ils avaient une carte d'identité achetée, fausse, avec la mention Hutu. Au demeurant, si réellement comme pour les races, on pouvait repérer qui est qui, pourquoi fallait-il à tous ces barrages absolument contrôler la carte d'identité et la mention ethnique, si ça se voit? Ce qui montre au passage qu'il y a dans l'idéologie génocidaire et dans le génocide quelque chose qui a profondément rompu avec les traditions culturelles rwandaises et que ce n'est pas en elles qu'il faut chercher l'origine des causes. Enfin, pour en conclure avec ce point, je vais prendre un dernier exemple qui est à la fois cocasse et tragique. Quand les Belges ont voulu que chacun soit pourvu d'un livret d'identité avec la mention ethnie, bien sûr, un certain nombre d'individus ne se sont pas présentés, ou n'étaient pas très sûrs de ce qu'ils étaient, ou bien disaient qu'ils étaient quelque chose et d'autres n'étaient pas d'accord. Et alors l'administration a tranché au nombre de vaches. 10 vaches et plus, Tutsi, moins de 10 vaches, Hutu. Et ainsi, au nombre de vaches, des frères ont été désormais, et durablement, de manière permanente, désormais, étiquetés ethniquement différemment.
Le 9 avril déjà, des miliciens arrivèrent de Gishita pour tuer les réfugiés de la colline de Rurebero, Abisesero. Les réfugiés n'avaient que des bâtons, des pierres et des machettes pour lutter contre les armes à feu et les grenades des assassins. Mais ils se défendirent. Ils se rassemblèrent sur Mouira et définirent une stratégie de résistance. Aminadabou Birara, un Abassassero qui avait pris part aux batailles de 1959, fut élu commandant. Siméon Karamaga, son adjoint. Vers la fin du génocide, Birara fut tué. Siméon Karamaga a parlé de son courage inflexible et de l'esprit de lutte qu'il avait insufflé à tous. Il a également décrit les tactiques militaires qui permirent de tenir bon tout le mois d'avril. En cas de bataille, les réfugiés dévalaient les flancs de la colline à toute vitesse et se mêlaient à l'ennemi. Il était facile de reconnaître les miliciens. car ils étaient vêtus de blanc et portaient des feuillages sur la tête.
Lorsque nous voyions arriver les miliciens, je me mettais devant les autres et leur demandais à tous de se coucher. Les miliciens arrivaient en tirant. J'ordonnais alors aux abbasséceros de se lever et de courir pour se mêler aux miliciens. Ainsi, ces derniers n'osaient plus jeter leurs grenades ou tirer avec leurs fusils de peur de s'entretuer.
Notre commandant demandait également aux femmes et aux enfants d'apporter des pierres et des bâtons.
Les hommes qui savaient se battre nous ont classés selon les capacités de chacun. Ils ont groupé les jeunes gens et les hommes forts au premier rang, au milieu de la colline. Les filles et les femmes qui ramassaient et entassaient les pierres au deuxième rang. Les vieillards avec tout le bétail au sommet de la colline.
Femmes et enfants, vieux et jeunes, tous souffrirent pareillement. Les femmes et les enfants fuyaient en courant. Les miliciens couraient aussi pour nous tuer. Quand ils s'approchaient d'une personne âgée ou d'un enfant qui n'avait pas la force de courir, les miliciens le tuaient immédiatement. Pendant ce temps, d'autres dans les villages démolissaient nos maisons. Des femmes volaient les récoltes et ratissaient nos champs, en sorte que la nuit, descendant la colline, nous ne trouvions plus rien à glaner. Je mangeais des tiges d'arbres quelquefois, pendant que je courais comme un animal. Je tombais sur quelqu'un qui avait reçu des coups de machette et qui respirait encore.
Nous n'avions plus beaucoup de force pour combattre. C'était terrible de ramasser des pierres, alors que nos mains saignaient sans arrêt. Quand on les jetait, elles n'allaient pas plus loin que 10 mètres. Nous n'avions pas de force. Nous n'avions pas de force.
Et donc, c'est les premiers massacres et les premiers exils. On prend les troupeaux, on brûle les maisons, on chasse les gens. Et il y a donc toutes sortes d'exilés depuis 59 dans les pays alentours. Et ça va grandir puisque c'est un massacre à répétition. Il y a d'autres dates, notamment 63, qui était particulièrement épouvantable, et où le philosophe Bertrand Russell s'indigne en disant que c'est l'extermination la plus systématique que nous ayons vue depuis celle des Juifs par les nazis. Mais globalement, ça ne dérange pas les puissances coloniales, puisque on est, tant que les intérêts de la colonie en tant que telle par rapport à la métropole ne sont pas mis en question, et qu'on stabilise comme ça le Rwanda, le Burundi, alors que c'est évidemment des États minuscules et sans importance géostratégique, sauf par rapport au Congo. Ce sont deux pays limitrophes du Congo, et qui là est très gros, très puissant, très peuplé, très riche, alors que au Rwanda, au Burundi, il y a des bananes, et du thé, du café, et voilà, et encore. Donc à l'époque, c'est peu exploité tout ça, et un peu de tourisme, la Kagera, les gorilles, donc c'est pas grand-chose, mais géostratégiquement, ça oui, c'est les Français vont s'impliquer à cause de ça. C'est l'occasion de prendre la place des Belges au Congo également, que de la prendre au Rwanda et au Burundi.
Si nous pensons génocide en 94, nous remontons dans le temps en cherchant des traces de la haine séculaire. Nous pensons bien sûr à des pogroms, à des massacres. Sur des siècles, dans la tradition orale rwandaise, rien. Rien, parce que contrairement à un préjugé répandu en Europe, pour cette zone en tout cas de l'Afrique, la pratique du pogrom, le massacre de populations civiles, était inconnue avant les années 50-60. Oui, le Rwanda était un État, comme nos États européens, un État belliqueux, guerrier. Qu'est-ce que c'était que ces guerres? Eh bien, elles avaient pour but d'agrandir le territoire, de razzier des vaches, si possible, de tuer le roi ennemi et de s'emparer du tambour emblème de sa petite nation voisine. Et puis après, souvent, d'ailleurs, avec cette famille, on concluait des alliances. Jamais aucune de ces guerres ne s'est accompagnée, même comme on dirait aujourd'hui, comme dommage collatéral du massacre de populations civiles. Jamais non plus elles n'ont été motivées par des motifs de haine raciale ou ethnique. Et la meilleure preuve en est que l'ennemi traditionnel séculaire du Rwanda, c'est le voisin Burundi, une société également composée de Hutu, de Tutsi et de Twa. Cette haine séculaire accompagnée de violences dont on ne trouve pas trace est en fait l'extrapolation commode, à nouveau par les Européens, d'une de leurs théories essentielles et dont il nous faut parler, parce qu'elle a joué un rôle. Elle a joué, elle continue au moment où je parle, à jouer un rôle considérable, non seulement au Rwanda et dans toute cette région, mais dans toute cette région avec des conséquences criminelles. C'est la théorie dite de l'invasion amitique. La théorie de l'invasion amitique a été déduite par les Européens de deux considérations. La première, nous l'avons vue, c'est d'avoir cru découvrir une société composée de deux races, dont l'une dominait manifestement sur l'autre. La deuxième considération, très exemplaire des préjugés de l'époque, c'est que la race qui dominait devait, par nature, nécessairement, être supérieure à l'autre. Supérieure jusqu'à quel point ? Il y a là, à nouveau, une singularité rwandaise. Les Européens ont tout de suite classé très très haut dans leur échelle de l'humanité, très près des Blancs, les Tutsis. Pourquoi ? Je crois qu'il est bon de se rappeler le choc qu'a été la découverte du Rwanda par les Européens. C'est donc très tardivement, c'est la dernière région explorée d'Afrique. On tourne autour, et puis première pénétration 1894, véritable entrée 1896. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que longtemps auparavant, à la conférence de Berlin, on s'était déjà partagé ces territoires et que, sans jamais avoir vu un homme blanc, les Rwandais étaient, sans le savoir, devenus Allemands. Quand donc, effectivement, les Allemands arrivent, dizaines d'années plus tard, ils pénètrent dans un pays qui est déjà quelque part légendaire. Parce que non seulement l'homme blanc n'y a pas pénétré, mais personne. Donc on ne sait pas ce qu'on va trouver, il y a des légendes. Et dans ce continent que les Européens, à l'époque, perçoivent, comme dit le célèbre titre de Joseph Conrad, comme le cœur des ténèbres, le continent de tous les dangers, des marées pestilentielles, des déserts impitoyables, des jungles impénétrables, avec des animaux féroces, des peuplades encore plus barbares, des anthropophages. Et voilà qu'au cœur de ce continent, ils entrent dans un pays que spontanément, plusieurs dans leur correspondance décrivent comme étant la Suisse. C'est la Suisse, le Rwanda. Il y a des montagnes enneigées, il y a partout de verts pâturages sur des collines, il y a des centaines de milliers de vaches extrêmement bien élevées, le pays est administré, il y a une cour royale extrêmement raffinée, cultivée. Ça ne pouvait pas être des nègres. Ça, c'était contraire à toutes les idées. Les Tutsis sont donc devenus quelque chose de mieux. Ils sont devenus des Hamites, ayant asservi des Bantous. Hamites signifie, étymologiquement, qu'on peut les faire remonter directement à Noé, le patriarche de la Bible, Noé, l'arche de Noé, le déluge, tout ça. Oui. Et le Hamite, c'est pas tout à fait aussi bien que le blanc, mais c'est pas aussi moche que le nègre. Et donc, les savants de l'époque, on traduit ça comme ceci, le Hamite est un sémito-caucasien. Un jour, quand, donc, comment, pourquoi, personne ne le sait, il serait arrivé en Afrique, dans l'Égypte des pharaons, parce qu'il y a quelques bas-reliefs où l'on voit des noirs élancés qui conduisent des troupeaux de vaches à longues cornes. Puis, quand, comment, pourquoi, personne ne le sait, ils auraient transité vers l'Éthiopie Abyssinie. Parce que là aussi, il y a des noirs élancés avec des troupeaux de vaches à longues cornes. Et quand, comment, pourquoi, personne ne le sait, ils seraient un jour arrivés sur les hauts plateaux du Rwanda-Burundi et auraient asservi progressivement les habitants locaux. Mesdames, Messieurs, la théorie de l'invasion amitique n'a pas le début de l'ombre, du commencement, d'une preuve. Elle, et elle seule, a été enseigné aux Rwandais comme la théorie de leurs origines, et ils l'ont cru. Et dans leur grande majorité, ils y croient toujours. Le blanc, qui savait tant de choses, qui maîtrisait les sciences, les techniques, leur a dit « Voilà d'où vous venez, qui vous êtes », et ils l'ont cru. Il faut se rappeler qu'à cause de ces élucubrations, en 1994, On a jeté des milliers de Tutsis dans la rivière Nyabarongo en leur criant « Retournez par là, en Abyssinie, c'est le chemin le plus court. »
Le 20 avril, les miliciens persuadèrent les Hutus et les Twas de Bisesero de changer de camp. Ils quittèrent les collines de la résistance, la nuit en cachette, et fournirent aux miliciens des informations sur l'organisation des réfugiés, maintenant seuls, à Bisesero. Les génocidaires modifièrent leur propre stratégie.
Ils ont mis une grande mitrailleuse au sommet d'une colline et ils ont tiré sur nous à distance. Nous nous sommes repliés sur la colline de Mouira. Ils nous ont encerclés, les uns sur la colline de Rosabo, un autre groupe sur la colline de Mutiti, d'autres à Kazirandimwe, et le dernier groupe montait en venant de Mobuga. Toutes ces collines entouraient la nôtre, Mouira. Alors nous nous sommes divisés en quatre groupes, comme les assassins, et un groupe de filles et de femmes pour rassembler les pierres, mais cela ne suffisait plus. À partir de cette période, beaucoup furent massacrés tous les jours.
Le premier président de la République, Grégoire Kayibanda, donc de l'indépendance, ancien secrétaire de Monseigneur Perraudin, qui a fortement soutenu la révolution de 59. Ce qui nous importe, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est après les massacres de 63, il écrit, il publie un article où il dit « Imaginez, Hutus, que vous entriez par force, comme vous essayez de le faire de temps en temps, par des incursions de guérilla ou quoi, et que vous veniez à nous faire la guerre, vous savez bien que ça serait, je cite de mémoire, hein, vous seriez à l'origine de la fin totale des Tutsis. Parce que tout le peuple majoritaire refuserait votre invasion et exterminerait tous les Tutsis. Et c'est vous qui seriez responsable de votre propre fin, puisque vous avez attaqué des États dits démocratiques qui ont soutenu ce régime des deux mains, avec de l'argent, des armes, et l'influence de la démocratie chrétienne, hein, puisque le président Habyarimana faisait partie de l'Opus Dei, par exemple. Comme la famille royale chez nous. Il était d'ailleurs beaucoup aimé dans la famille royale.
Et il y a eu de nombreux massacres, toujours sur le même système. L'oppression provoque des exils. Les exilés veulent rentrer chez eux, on le leur interdit, ils le tentent par la force. Alors on massacre les Tutsis de l'intérieur, en disant qu'il ne fallait pas attaquer. Je parle de massacres, je ne parle pas de peu d'événements. Voici la date des principaux massacres au Rwanda avant le génocide. 1959, 60... 61, 63, 66, 73, 90, 92, 93, et puis le génocide.
Est-ce que je peux vous demander comment vous avez travaillé avec Garrett List? Comment s'est fait ce travail? Quand est-ce qu'il apparaît?
Une bonne question. Oui. Il apparaît tôt, mais il apparaît tôt parce que à un moment donné... Dans le processus, il était clair pour nous que, contrairement au journalisme souvent, nous voulions prendre le temps de tenter de savoir et de tenter de trouver les formes justes. C'est-à-dire, tout ça n'a pas été, quand on regarde le film, on a l'impression que ça a toujours été notre plan, pas du tout, que ça se soit structuré comme ça. On a commencé comme avec une page blanche. Et donc, on a travaillé pendant 4 ans d'élaboration. On avait d'abord cru que ça n'apprendrait que 2 ou 3. Ça a fait 4, je vous dis pas les problèmes avec les coproducteurs. On a rajouté une année pour être sûr d'avoir les formes justes et donc d'avoir eu le temps de les tester. C'est pour ça que c'était cette forme du work in progress. À plusieurs étapes du projet, on convoquait des gens, d'abord peu de gens, les producteurs, les amis, les rescapés, les survivants du génocide, et on montrait où on en était, qu'est-ce qu'on avait à montrer, donc aussi bien des projets de scénographie que de la musique, c'est pour ça que je pense à Garrett, et des images, qu'est-ce que Marie-France avait ramené comme image, ou trouvé comme image, ou proposé comme séquence d'images, et des textes. À partir de là, et des explications des gens, de leurs critiques, de leurs propositions éventuelles, on remettait en chantier notre... Et on a décidé de faire ça dès la première année. La décision de commencer à faire quelque chose date entre 94 et 95, 6, mais décider, oui, on va le faire, on réunit une équipe, et on met ça en chantier, concrètement, c'est 96. Quitte à beaucoup changer, transformer, jeter. On a beaucoup jeté. Il y a des tonnes de pages qui ont été La conférence d'où elle vient, voilà une transgression dont je parle, puisque c'est une conférence, on n'est pas au théâtre normalement, elle n'est pas jouée comme l'effet du tabac de Tchekhov, c'est vraiment quelqu'un qui vient faire un truc, pas pour le gag, mais, et que les gens, pourquoi regarder, applaudissent, c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est, à ce moment-là, ils en ont besoin, ils veulent comprendre plus de tout ce qu'ils ont reçu dans la tronche, et qui les a un peu submergés, ou d'émotions, ou de questions, en disant, mais on n'y connaissait rien, mais je ne savais pas ça, etc. Mais qu'est-ce que c'est au fond, tout ça? Et donc elle arrive, elle remplit un besoin, donc elle est acceptée. Les différentes transgressions sont venues du fait que Marie-France, par exemple, et Jean-Marie, ensemble, Piem, ont travaillé pendant longtemps dans l'idée, c'est une vraie émission de télévision, et on va le faire comme en direct, avec des camions, on va essayer d'avoir un deal avec la RTBF, et qu'on ferait un direct, et peut-être même un véritable duplex avec le Rwanda, où là les coproducteurs, certains en tout cas, devenaient hystériques en disant, maintenant je quitte la pièce, débrouille-toi comme tu veux. L'idée de l'émission de télé a sauté, comme le public, dans les étapes du work in progress, avait, semble-t-il, beaucoup apprécié la manière dont je faisais des liaisons entre les différentes parties qu'on montrait aux gens. Je crois que c'est surtout Jean-Marie Piem qui m'a poussé, mais il fait une conférence. Oui, allez, on va voir. Et donc, on a fait ça. Eh bien, Gareth, je me souviens que dans les Work in Progress, très vite, on a eu le premier prélude. Gareth avait décidé que dans la réparation, qui, par exemple, dont tu donnais la parole longuement à une qui aurait dû mourir, qui se voit dans le décor quand, finalement, on a fixé avec Johan Dannen, que ce grand mur de terre rouge comme la terre africaine, où il semble y avoir encore des empreintes de corps, c'est un mur, comme dans la tragédie, où on s'adosse pour la faire face publique, mais aussi qui laisse paraître des fantômes, etc. Mais que ce mur, qui a été, pour beaucoup, la dernière vision qu'ils ont eue avant de mourir, ils étaient jetés dans ces fosses. Donc ça allait être le décor, mais magnifique. Donc il y a une transposition. Dans la musique, d'abord il était clair qu'il fallait faire entendre de la musique de la culture rwandaise. Ça aussi, c'est toute cette culture qui a été détestée par les deux républiques, qui a beaucoup freiné la transmission des savoirs à cet égard. Le point de vue de Gareth était donc, d'une part, comment dialoguer, sans faire de la world music, mais dialoguer. Et d'autres moments où c'est la musique occidentale qui est présente, parce que c'est son langage à lui, et il a choisi cet instrumentarium. Gareth s'est très vite, et avec ces options-là, et puis il est allé avec nous aussi sur place, au Rwanda, l'année où la commémoration se tenait à Bicécéro, l'endroit de la résistance, l'endroit où, pour des raisons très particulières, les Tutsis, et au départ les Tutsis, les Hutus et les Twa, ensemble de cette région de Bicécéro, près du lac Kivu, de hautes montagnes et de hauts plateaux, ont résisté au génocide pendant plusieurs semaines ensemble. Et puis on a réussi à les séparer, et tous alors se sont acharnés sur les Tutsis. Et donc cette longue résistance était quelque chose d'extraordinaire. Donc on est allé là-bas sur place, je ne vous parais pas. Le matin même, on déterrait encore des cadavres, il y avait des murs de cadavres, etc. L'odeur, et des discours, très peu de représentants officiels, je ne crois pas qu'il y avait de Français, de représentants officiels de nations étrangères. Et ayant ça sous les yeux, ayant vécu cette journée-là, et où aussi nous avons dû subir de l'agressivité, parce que les Rwandais sont aussi dans cette idée de la responsabilité collective, et donc nous étions des Bazungu, des Blancs, donc de ceux qui les avaient abandonnés en 59, qui avaient soutenu leurs ennemis politiques et massacreurs depuis des décennies. On était quand même ses parents, même si on était passé, si on venait là, nous justement, pour tenter de réparer. Donc dans le bus de retour, on était très très ciblés, quoi. Il y avait une agressivité, des moqueries en... De temps en temps, quelqu'un qui intervenait en disant « Mais il ne faut pas s'en prendre aux visiteurs. » L'ensemble de tout ce qu'on avait vu et ressenti font que nous avons décidé, Gareth et moi, qu'on allait faire une pièce de musique, un oratorio, une cantate, avec les événements de Bicécéro, et que comme c'était la résistance, c'est devenu principalement l'idée « Mais c'est peut-être par ça qu'il faut terminer. »
À la fin du mois d'avril, les réfugiés étaient très affaiblis. Humide, brumeuse et froide. Était la saison des pluies, ils avaient faim, soif. Ils étaient épuisés, souvent malades. La gangrène achevait les blessés. Les morts sont pilés au flanc des collines et personne n'avait le temps ni la force de les enterrer de manière décente. La nuit, au péril de leur vie, dans les champs ratissés par les femmes et les enfants des tueurs, ils ramassaient quelques épis de sorgho ou quelques pommes de terre. Le jour, les combats se suivaient et se ressemblaient. Seul le nombre des cadavres ne cessait d'augmenter.
Sur la colline de Moïra, couverte de forêts et de buissons, vivaient avant le génocide de nombreux hommes forts. Entre buissons et forêts, sur la colline de Moïra, reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin.
Au début du mois de mai, les attaques cessèrent soudainement. Durant plus d'une semaine, la paix régna à Bicécéro. Les réfugiés ne savaient pas qu'il s'agissait seulement d'une phase de préparation. Les génocidaires rassemblaient des renforts considérables bien au-delà de la région. Le massacre le plus brutal n'avait pas encore eu lieu.
Entre buissons et forêts, sur la colline de Moïra, reste une poignée d'hommes qui maintenant meurent de chagrin.
Un extrait de la cantate de Bicécéro composée par Gareth List qui signait la fin du spectacle Rwanda 94, mis en scène par Jacques Delcuvelry en grande complicité avec Marie-France Collard, Jean-Marie Piem, Mathias Simon et les acteurs du groupe OFF, un spectacle que vous pouvez revoir intégralement sur OVIO, un entretien en deux parties avec Jacques Delcuvelry à retrouver également sur OVIO, une proposition de Pascal Tison.
Qui cherche la vérité, dit les ombres, qui réclame justice, n'accepte aucun pardon. Tant de morts, tant de chagrins, tant de familles exterminées, et il faudrait oublier. Le feu est éteint, c'est vrai. Mais pour combien de temps? Le feu est éteint, c'est vrai, mais pas la peur. Et que dire du feu à l'intérieur?
La voie de la réconciliation ne conduit pas à l'oubli. Que l'on queue nos os dans les marais, sur les flancs des collines, dans les fosses communes, que l'on plante nos noms sur une croix.
Nous sommes ce million de cris suspendus au-dessus des collines du Rwanda. Nous sommes ce nuage accusateur. Nous attendons de vous réparation pour nous, les morts, et pour tous les survivants, pour tous les Rwandais, pour tous les hommes de la terre.
Vers nous, l'humanité vous regarde tristement.
qu'attendez-vous? Nous ne sommes pas en paix.
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 Qui cherche la vérité, dit les ombres. Qui réclame justice, n'accepte aucun pardon.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première. Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.